Bonjour à vous et bienvenue dans ce 43e numéro d'Ethno Vibro, l'effet social total. Une émission indisciplinée de sciences sociales et d'expérimentation pluridisciplinaire. L'émission qui rencontre des chercheurs et des chercheuses atypiques, voire artistes, comme notre invitée du jour Marie Luçon, qui va nous parler de sciences humaines et de Méandre ou la rivière inventée, son dernier film documentaire co-réalisé avec Émilien de Bortoli. C'est dans le cadre du festival CHAP à Viol-le-Fort que j'ai eu la chance d'assister à une projection de Méandre en présence du couple de réalisateurs, aussi chercheurs et musiciens que vous avez peut-être croisés dans, entre autres, l'Orchestre National du Cholao ces derniers temps. Aujourd'hui, et spécialement pour Ethno Vibro, je vous propose une plongée en rivière avec Marie Luçon. C'est parti. Ethno Vibro, l'effet social total. Radio Escapade. Bonjour Marie Luçon.
Bonjour.
Je suis très heureuse d'être avec toi pour parler de ce film que tu as réalisé avec Émilien de Bortoli, Méandre ou la rivière inventée. Alors, est-ce que tu peux expliquer à nos auditrices de quoi il s'agit ? On sait que c'est un documentaire, mais peux-tu nous dire en quoi il est poétique et scientifique et de quoi il parle ?
Alors, Méandre ou la rivière inventée, c'est un film un peu particulier, c'est un film un peu ovni, parce qu'il mélange des registres qui normalement ne se rencontrent pas, c'est-à-dire que il rencontre à la fois la rivière déjà, dans sa multitude, ses graviers, ses larves, ses paysages, ses sons, ses lumières, mais aussi les gens qui l'habitent, les scientifiques qu'il étudie, et aussi voilà, il y a aussi ce registre plus poétique, philosophique, d'une réflexion sur nos relations avec le vivant plus général. Donc c'est un film un peu patchwork qui tient parce qu'on suit quatre radeliers, donc sur un radeau qui traverse la Vis et l'Hérault. Et c'est par eux que l'on a une prise avec cette rivière inventée, imaginée.
Tu as fait toi-même partie de cet équipage ?
Oui, tout à fait. On a construit le radeau, on a vécu, on a très peu préparé finalement l'aventure, donc c'était vraiment une aventure. Et on est parti donc pendant une semaine du Grenouillet au barrage Bertrand, voilà, il y a 2 ans.
Qu'est-ce que raconte ce film sur la rivière, justement ? Il y a beaucoup de textures, de sensations, mais qu'est-ce que ça a dit, en fait ? Quel est le propos, finalement, de ce documentaire ?
En fait, ce film, il vient juste après ma thèse. Donc, j'ai fait une thèse en sociologie des sciences sur les enjeux à la restauration écologique des rivières, et notamment toute la difficulté à prendre des décisions en commun pour ces rivières. Et en fait, comment je peux dire ça ? La thèse est un exercice académique où on va recueillir la parole des scientifiques, des ingénieurs, des politiques. Et finalement, après 3 ans de travail, j'avais l'impression que la rivière était absente de mon travail académique, même si celui-ci était intéressant, mais la rivière elle-même, notre prise avec elle, notre relation et toute sa multitude avaient disparu. Et donc, avec Émilien, qui est aussi mon compagnon, Émilien est un grand amoureux des rivières, et on a voulu se poser des questions vraiment de cinéma. Qu'est-ce que c'est que de rendre compte de cette altérité si complexe, la rivière, en cinéma ? Donc comment on se pose des questions de cinéma pour rendre compte du vivant, en fait. Et donc ça demande, par exemple, on a décidé, par exemple, de filmer les humains avec les mêmes focales que les larves, par exemple, les gens qui étudient les éphémères sont filmés avec la même focale, la même optique que les larves. Ça veut dire, par exemple, essayer de reconstituer le son un son évidemment fictif, hein, mais de ces entités, de ces éphémères. Ça veut dire aussi écouter les graviers, essayer de capter leur chant, leur son en général. Ça va être un ensemble comme ça de décisions filmiques qui nous permettent de, comme disait une spectatrice il y a encore deux jours à Chappes, qui nous permettent d'être rivière en tant que spectateur.
Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi consiste la sociologie des sciences ?
La sociologie des sciences, c'est tout simplement que mon sujet d'étude, c'est les scientifiques. Donc moi, par exemple, j'essaye de comprendre en quoi une décision qui a priori a l'air technique, comme reméandrer ou pas une rivière, remettre des graviers ou pas pour des questions écologiques, en fait, découle de choix qui sont culturel, sociologique, et donc quelque part politique. Donc en fait, qu'il n'y a pas de décision scientifique hors sol, elles sont toutes construites dans un contexte culturel. Et donc, d'un coup, notre rapport au vivant change complètement parce que les modèles de rivières qui sont aujourd'hui bâtis et parfois même imposés correspondent à certains idéaux, à certaines vision du monde, et sauf qu'en fait, c'est très embêtant parce que ces visions du monde ne sont pas forcément celles des habitants, de ceux qui habitent la rivière, et c'est là où il peut y avoir des décalages qui deviennent politiques. C'est en ce sens-là que l'étude de la sociologie des sciences est nécessaire pour ne pas donner l'illusion que la science serait indépendante d'un fait politique. Voilà.
Tu parles de reméandrer, de méandre. Est-ce qu'on peut savoir précisément de quoi il s'agit ?
Ben, les méandres, c'est tout simple. En fait, c'est simplement la forme des rivières qui viennent serpenter. Et en fait, c'est avec l'eau. Enfin, la rivière, ce n'est pas que de l'eau, justement. C'est des graviers et de l'eau. Et en fait, une rivière vivante, c'est une rivière qui peut déplacer ses graviers par la force de l'eau. Et si on lui laisse la capacité de déplacer ses graviers, parce que malheureusement, avec les barrages et les contournements d'eau, la rivière souvent n'a pas assez de force pour déplacer ses graviers, mais quand elle a assez de force, elle va faire des méandres. Et donc, les graviers vont venir déposer, l'eau va venir éroder les berges, et comme ça, on a un écosystème qui est vivant, qui est actif.
Donc, tu es sociologue, mais tu as quand même des notions de sciences dures, puisque tu côtoies donc des scientifiques, tu sais de quoi ils parlent, tu arrives à mettre en perspective leur discours de sciences dures.
Oui, c'est là où je suis quelque part anthropologue, c'est parce que ma posture est celle d'un anthropologue, parce qu'en fait, quand j'ai commencé ma thèse, je n'avais aucune connaissance sur les rivières, aucune connaissance sur la géomorphologie fluviale, c'est le terme de la... le terme scientifique. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on peut appliquer une pensée d'anthropologue aussi sur des sujets techniques. Et donc, je suis tout simplement allée voir les scientifiques et leur ai posé la question, c'est quoi un méandre, justement ? C'est quoi des graviers ? Pourquoi vous voulez restaurer ici ? Pourquoi là, vous mettez du géotextile ? Mais alors, est-ce que ça marche, que ça marche pas ? Enfin, toutes ces questions-là. C'est quoi votre référence ? Toutes ces questions, en fait, m'ont permis de devenir experte sur le sujet, mais comme l'anthropologie participative, complètement, en fait, c'est le même principe. Ouais.
Et comment c'était accueilli, cette recherche, par tous ces scientifiques et ces techniciens de la rivière ?
Ben, je pense que quand on est sociologue ou anthropologue, les sciences dures, comme on les appelle, ont un petit peu du mal à se positionner et à savoir un peu ce qu'on fait. Moi, on pensait que j'étais psychologue. Enfin, voilà, c'est assez compliqué de faire comprendre que on peut réfléchir aussi sur leur discipline, différemment bien sûr, mais sur leur discipline. Donc, j'étais accueillie, je pense, comme une curiosité. et en plus, je pense que je l'étais aussi, parce que je ne revendiquais aucune forme de savoir légitime. Voilà, j'étais complètement dans l'apprentissage. Et finalement, ça a été merveilleux dans la restitution que j'ai faite de ma thèse, parce que donc, c'était important pour moi que tous les gens avec qui je travaillais puissent lire ma thèse avant qu'elle soit parue, enfin avant qu'elle soit soutenue. Et donc, j'ai eu des retours formidables de gens qui me disaient waouh, en fait, on n'avait jamais réfléchi à notre pratique comme ça. Et j'ai même pu intervenir dans certains syndicats de rivière après. Donc, il y avait une grande curiosité.
Est-ce que tu pourrais nous dire comment tu es devenue sociologue et pourquoi ?
Donc, j'ai un parcours atypique. J'ai commencé par du cinéma. Donc, j'étais passionnée de cinéma documentaire très, très jeune. Dès 18 ans, je voulais faire du cinéma documentaire. Donc, je suis partie à Paris. J'ai fait une licence de cinéma, donc d'analyse de films. Ça s'appelle ça études cinématographiques. Donc, vraiment, c'est assez peu pratique. J'ai appris toute seule à faire du montage, à faire des plans. Et en fait, plus le temps passait, comme je voulais vivre du cinéma, il fallait que je me confronte au modèle économique du cinéma, qui était plutôt celui des séries, des publicités même. Enfin, vraiment, je m'éloignais de plus en plus de ma passion et j'ai tout arrêté à un moment parce que je ne voyais plus trop le sens. Et je me suis inscrite à un master assez généraliste qui s'appelait Lettres, Arts et Pensées Contemporaines, où j'ai eu une révélation à un cours d'anthropologie de la nature. Et ce cours m'a bouleversée. Ouais. Et donc, j'ai décidé de continuer parce que pour la première fois de ma vie, tout ce que j'apprenais me passionnait. Voilà. Et je voulais que ça s'arrête jamais. Donc j'ai continué mes études. En parallèle, en fait, j'avais une vie d'artiste plutôt musicienne et plutôt performeuse dans des spectacles. Mais c'était voilà, complètement indépendant à ce moment-là. Et il y a eu un moment, une fusion, lorsque j'ai validé mon mémoire de master d'anthropologie, où ma prof a appris que j'étais aussi cinéaste et m'a proposé de valider mon mémoire sous forme de film. Et là, d'un coup, les deux se sont rejoints. Voilà. Et donc, je suis devenue sociologue. Mais ce qui est drôle, c'est que je ne me sens pas plus sociologue que cinéaste. Ou en tout cas, c'est un rapport vraiment, pour moi, complémentaire. Je pense que beaucoup de cinéma documentaire, beaucoup de cinéastes font un travail d'anthropologie, d'anthropologue et de sociologue. Et que finalement, et en plus, moi, j'ai fait des études qui étaient finalement... finalement, j'ai fait que 2 ans de sociologie, sans parler de mon doctorat, bien sûr. Mais donc, je me sens plutôt être quelqu'un qui se pose des questions de sociologue ou d'anthropologue, plutôt que vraiment légitime dans mon... Je ne sais pas comment dire ça de différemment. Mais...
Et quand même, ce cours d'anthropologie de la nature, est-ce que tu pourrais en parler ? Pourquoi ça t'a tant bouleversé ? Qu'est-ce que ça t'a ouvert comme nouveau champ ? Pourquoi ça t'a tant marqué ?
Ce que je pense qui est fascinant dans l'anthropologie de la nature, c'est que ce que tu crois être évident autour de toi, d'un coup s'écroule. Ça ne l'est pas. La nature, ce que tu considères comme la nature et qui te paraît évident, tu crois savoir ce que c'est que la nature. Tout le monde, tu dis nature, oui, je sais ça, c'est la forêt. C'est... Et bien d'un coup, ça s'écroule. Et je crois que c'est ça, pour moi, la beauté des sciences sociales, c'est que tes fondements s'ébranlent, mais que tu te sens plus connecté, en fait, à ce réel, à l'altérité. Et en même temps, plus dépassé. Enfin, il y a les deux en même temps. C'est assez bouleversant comme expérience. Donc moi, évidemment, ça a été la pensée, bon, comme beaucoup, beaucoup, beaucoup hein, de Descola. Parce que bon, c'est celui qu'on connaît le plus, même s'il y en a plein qu'on travaille sur ces questions de différence entre nature et culture et sur ces ontologies, nos rapports avec cette nature. Mais ça a été, par exemple, se poser aussi la question éthologique aussi, de comment pense un animal, est-ce que je suis si différent ? Enfin, des questions finalement très très basiques, en fait, notre rapport au vivant. Et c'est ça qui m'a fascinée. Et plus récemment, ça a été, parce que du coup, j'ai fait en sociologie des sciences, il y a quand même le grand penseur Bruno Latour qui a, je pense, révolutionné... beaucoup de choses en termes de sociologie, et voilà, qui lui aussi a beaucoup pensé la nature, et lui qui vient à remettre de la symétrie entre justement ces altérités et les humains. Et je trouve que ça va au-delà de juste une pensée qui soit belle, c'est que ça bâtit des politiques très fortes, ça nous impose à reconfigurer justement nos alliances, comme ils disent, reconfigurer notre rapport à comment on observe l'autre, la différence. Je pense que c'est vraiment la sociologie et l'anthropologie sont des moyens de se construire politiquement qui sont fondamentaux. Ouais.
Pas trop mal, pas que...
Pourquoi elle est inventée, cette rivière, et comment elle a été inventée, comment elle s'inventera?
Oui, alors parce que ce qui est drôle, c'est que donc dans ma thèse, j'avais une posture vraiment d'anthropologue, ethnographe, où j'ai fait donc quatre descriptions minutieuses de rivières, quatre biographies de rivières. Et là, au contraire, on s'est permis d'être anti-naturaliste, au contraire, justement, d'être dans de la création pure. La rivière, les rivières qu'on a... En fait, ce patchwork dont je vous parlais au début, cette composition de ce que Donna Haraway, des perspectives partielles, en fait. C'est-à-dire qu'on a... le film est pensé comme une sorte de... une somme de perspectives qui se rejoignent par l'objet filmique. Et donc, toutes ces perspectives vont créer cette rivière inventée, cette rivière qui est notre rivière à Emilien et moi, parce que par ces sons sont par exemple, il y a évidemment eu des prises de sons, des ambiances sonores au moment des tournages, mais c'est également des centaines et des centaines de sons qui ont été rajoutés, la musique évidemment que vous avez pu entendre ou que vous allez entendre, qui est très importante dans le film, c'est on s'est permis de mélanger des rivières qui ne sont pas sur les mêmes bassins versants. Donc voilà, tout ça dessine la rivière qui pour nous, enfin pour ceux qui l'auront vu, les images dans ce film montrent la rivière qu'on rêve, nous, une rivière justement à méandre, une rivière avec une répulsive foisonnante, une rivière où on peut s'y baigner et rêver ensemble. Voilà, et c'est ça, c'est en ça où c'est une rivière inventée.
Et toi, personnellement, ta relation à la rivière, jusqu'au moment où tu as choisi de travailler sur ce sujet, comment tu l'expliquerais?
Alors, ce qui est drôle, c'est que c'est un amour par procuration. C'est-à-dire que celui qui est le grand amoureux des rivières, c'est Emilien. Lui, c'est un poisson. Il passe des heures et des heures et des heures et des heures dans l'eau. Il fait de l'apnée. J'observe toujours avec fascination comment il est connecté, justement. Il peut faire un avec la rivière. Alors que moi, pas du tout. Moi, je viens de la mer. J'ai grandi en Sud-Bretagne. Et je ne connaissais pas la rivière avant de connaître Emilien. Et en fait, j'ai connu la rivière quand on est tombé amoureux. Il m'a emmenée donc dans sa maison de vacances avec sa grand-mère à Ganges, donc vraiment à côté de chez nous. Et là, j'ai découvert cet écosystème incroyable. Mais moi, j'ai très très peur de l'eau. Et donc, c'est un rapport à la fois de fascination et en même temps de peur, parce que j'ai failli me noyer plusieurs fois. Mais en fait, c'est encore même plus profond que ça, quand même. Parce que en fait, la Vis, c'est pas n'importe quelle rivière. C'est pour ça qu'on l'a choisie. Non seulement effectivement on s'est rencontrés, on est tombé amoureux à 20 ans là-bas, mais aussi en fait c'est une rivière qui m'a guérie à un moment où j'allais très mal. J'ai fait ce qu'on appelle une dissociation, c'est-à-dire que j'arrivais plus à connecter mon esprit et mon corps. Et en fait, Emilio a eu l'idée de me jeter dans l'eau pour m'aider. Et en fait, la sensation de l'eau glacée m'a permis, quelques instants seulement, de retrouver une impression d'unité. Et donc, cette rivière m'a aidée une fois, deux fois, trois fois. Et en fait, pendant tout un été, je suis retournée me baigner pour sentir que j'étais vivante, en fait. Parce que j'avais, dans ce moment difficile, j'avais oublié que j'étais vivante. J'avais du mal à comprendre que j'étais vivante. Et cette eau qui... Ça, vous avez tous fait l'expérience de plonger dans l'eau glacée, on se sent extrêmement vivant. Et je crois que c'est ça aussi notre rapport à l'autre. C'est, ça nous aide aussi à se rapprocher de quelque chose de très profond en nous, quoi. Mais il faut lui laisser place. Et ça aussi, l'expérience en radeau, c'est aussi ça qu'on voulait dire dans le film. C'est que oui... C'est drôle, c'est un moment drôle entre copains, c'est ce qu'on a filmé, mais c'est aussi se laisser le temps de pouvoir être avec la pluie qui tombe, être avec les bruits de la nuit, avoir froid quand on pousse le radeau, se confronter à ces multiples seuils, parce que du coup, là, les rivières aujourd'hui sont tellement barrées qu'on le sent dans sa chair quand on doit porter un radeau qui fait plus de 100 kilos. Enfin, on s'en rend compte, parce qu'avec tous les bagages, ça faisait presque 100 kilos. Et c'est ça à quoi invite le film, c'est à s'interroger d'un point de vue. C'est-à-dire que les sens ne sont pas superficiel, il nous aide à avoir prise avec le réel. C'est plutôt ça, exactement. C'est ça ce qu'on a essayé de faire. Là où le travail académique est un travail de connexion plus, on va dire, intellectuel et réflexif, le film est un moyen, pour moi, incroyable. Le langage cinématographique, l'écriture filmique est un moyen de partager l'expérience du réel avec d'autres pour que ce réel retrouve une force. Thank you.
Est-ce que ça t'a amené encore d'autres éléments, même scientifiquement parlant, de traverser cette expérience cinématographique?
Ah oui, complètement. Je pense que c'est vraiment complémentaire. Ça va ensemble. Et j'ai envie de dire qu'il faudrait un troisième volet, qui serait un volet politique, en fait. Évidemment. Il faudrait évidemment un troisième travail qui soit un travail peut-être de performance ou qui vienne à aller sur la rivière, connecter les gens avec la rivière. Alors c'est ce qu'on a essayé de faire quand même, je peux peut-être en parler un tout petit peu, avec ma directrice de thèse qui s'appelle Christelle Gramaglia, qui est à l'INRAE. On a mis en place, avec tout un comité scientifique formidable, qu'on a appelé Resto Débat, bon c'est un petit peu... Le titre n'est pas terrible, où en fait on a essayé de. On a contacté en fait des syndicats de rivière pour leur proposer d'organiser des sessions avec des scientifiques et des habitants pour travailler ensemble à un projet de restauration partagé. Donc on l'a fait, alors surtout eux, parce que moi j'étais enceinte jusqu'aux dents à ce moment-là, sur l'Ozon, dans le Var. Et donc, il y a eu 5 séances avec les habitants, avec la mairie, avec le syndicat de rivière. Et c'est merveilleux parce que ça a abouti, effectivement, après ces 5 séances, sur plusieurs mois, à un projet de restauration écologique qui a été intégré par le bureau d'études mandaté par le syndicat de rivière et qui est, du coup, accepté par la population. Et ça, je trouve que c'est le volet manquant de ce travail académique et artistique.
Et pour parler politique, justement, et sans spoiler le film non plus, mais qu'est-ce qu'on peut dire de l'état des rivières aujourd'hui, en France du moins, et de l'état politique de l'entretien des rivières et de leur usage humain?
Là où j'ai du mal à répondre à cette question, c'est qu'on a le luxe aujourd'hui, parce qu'on a délocalisé nos moyens de production, de pouvoir s'occuper maintenant de nos rivières. Donc j'ai envie de dire, nos rivières vont beaucoup mieux qu'il y a 30 ans, grâce notamment à la création de l'Agence de l'eau, grâce à la loi sur l'eau de 2005, grâce à des politiques très ambitieuses dans la directive cadre européenne de 2000. Il y a des gros moyens qui ont été mis en œuvre pour restaurer, assainir les rivières en France, parce qu'on délocalise nos moyens de production à l'étranger, donc voilà, on a le luxe. Donc il y a une sorte de paradoxe écologique, mais c'est vrai que nos rivières vont beaucoup mieux que dans les années 80-90. Cependant, évidemment, c'est très contrasté. Il y a des rivières clairement sacrifiées pour les besoins de la production, de l'extraction. Je pense notamment toutes les rivières qui sont soumises à des barrages. Mais aussi, en fait, il n'y a pas que des grands barrages. On recense, alors je crois que c'est, je ne veux pas dire de bêtises, mais 60 000 obstacles à l'écoulement sur les cours d'eau français. Donc ça peut être des tout petits seuils qui sont mis, des tout petits murs qui sont mis pour rehausser les niveaux d'eau, pour les dévier ensuite à des fins d'agriculture. Mais tous ces obstacles viennent empêcher l'écoulement non seulement des graviers, mais aussi de toute la vie biotique, hein, toute la vie qui peuple les rivières. D'un point de vue assainissement, je pense que là, on a vraiment fait des énormes progrès par rapport aux années 90. Il y a évidemment encore des points noirs avec des zones très polluées, mais je veux dire, là, pour le coup, il y a quand même des gros efforts. Donc, j'ai envie de dire que c'est enfin, les rivières en France, moi, j'aurais du mal à répondre. Ce que je vois, par contre, c'est que... ces gros efforts qui ont été faits dans les années 80-90, qui ont été donc accompagnés par des gros budgets avec les agences de l'eau, sont en train d'être malheureusement de plus en plus minces pour des raisons de restrictions budgétaires. Déjà, il y a 2 ou 3 ans, les agences de l'eau ont perdu 1/5 de leur budget, qui en sont partis dans le budget général de l'État. Et les agences de l'eau sont vraiment celles qui gèrent par bassin la politique de l'eau, on va dire. Nous, par exemple, on appartient au bassin Rhône-Méditerranée-Corse. Et en fait, elles sont le relais incroyable entre l'État et les syndicats de rivières. C'est vraiment l'échelon de bassin versant. Et s'il y avait effectivement une disparition de ces agences, je pense que ce serait très grave pour les politiques de l'eau qui sont parmi, qui sont vraiment ambitieuses. Hein, je veux dire, les politiques de restauration ont accompagné jusqu'à aujourd'hui à 90% le financement des projets de restauration. Enfin, si elles venaient à disparaître, je ne suis pas sûre qu'il y aurait encore des projets de restauration parce que c'est beaucoup trop coûteux pour les communes. Voilà. Donc, j'ai un bilan un peu mitigé sur... je trouvais qu'on était dans une très belle dynamique et malheureusement, clairement, l'environnement n'est pas la priorité de l'État, du gouvernement, et c'est grave. Voilà, c'est dommage. C'est très triste.
On comprend dans le film et aussi après ton intervention, parce qu'après le film aussi, souvent, tu es là, tu peux répondre aux questions, que finalement, ces projets de restauration sont assez gigantesques, mais que c'est très rapide, les effets. C'est-à-dire que la rivière, très rapidement, va complètement se restaurer elle-même, changer, se transformer. Et donc, il y a une temporalité assez intéressante comme ça. Tu peux nous en parler de ça ?
Alors, en fait, aujourd'hui, les projets de restauration, souvent, sont sur des tout petits linéaires. Hein. Donc, c'est ça que je racontais l'autre jour. C'est que souvent, ça ne concerne que 400, 500 mètres. Donc, malheureusement, les effets ne sont pas incroyables parce que c'est des tout petits linéaires. Donc, effectivement, même si on retrouve une belle forêt alluviale, des méandres du coup une biodiversité qui va avec, à l'échelle de la rivière, souvent, malheureusement, les effets sont assez peu visibles. Par contre, qu'on observe sur les projets qui ont été très ambitieux, comme sur le Vistre, mais aussi sur le Drac, dans les Hautes-Alpes. Là, sur des plus grands linéaires, donc le Vistre, c'est quand même quasiment 20 km de rivière restaurée, le Drac, c'est 4 km. Et là, c'est assez incroyable, effectivement, de voir que... ce qu'on observe, en fait, c'est que dans les premiers temps, lorsqu'ils ont voulu restaurer les rivières, ils avaient des projets techniques très interventionnistes où ils venaient figer le lit sous forme de méandre avec du génie végétal, du fascinage, etc. Et en fait, ils se sont rendus compte que là où, lorsqu'on laisse la rivière agir par elle-même, c'est là où il y a le plus de biodiversité qui revient, mais c'est assez logique en fait, c'est-à-dire que plus on lui laisse la capacité d'agir, la capacité d'éroder, plus du coup il va y avoir des diversités de faciès, des diversités d'écoulement, des diversités de gravier, et en fait c'est toujours la diversité qui amène à la biodiversité, à un maximum d'habitats possibles. Et donc, effectivement, sur des cours d'eau comme le Vistre, qui était complètement dans un état d'égout, on passe d'un écosystème nul à, d'un coup, une rivière avec des méandres, des graviers et, progressivement aussi, une ripisylve. Bah, évidemment, là, les effets sont incroyables en 5-10 ans parce que, surtout dans une plaine comme la plaine de Nîmes où il y a très peu d'arbres, où il y a peu d'espace pour toutes les espèces qui pour se réfugier en fait. Et donc très rapidement le castor est revenu, le sanglier bien sûr, ce qui a fait controverse aussi, et le castor est venu renforcer cet écosystème incroyable en créant des zones humides. Enfin, et donc ça a été incroyable de voir qu'en 20 ans l'endroit qui a été le premier restauré sur le Vistre est aujourd'hui remarquable. Thank you.
Est-ce que tu continues depuis ta thèse la sociologie? Et si oui, sur quel sujet? Est-ce que c'est toujours les mêmes sujets ou est-ce que tu t'aventures dans d'autres, d'autres terrains?
Alors, j'aurais beaucoup, beaucoup aimé continuer à travailler sur les rivières et sur la restauration. Mais malheureusement, en fait, c'est très compliqué d'avoir un poste de chercheur. Tout simplement, en France, notamment lorsqu'on a, comme moi, l'envie d'être dans un rapport un peu de nouvelle écriture ou d'allier notamment le cinéma, par exemple. Donc, je n'ai pas... je ne suis pas la bonne élève qui publie, parce que pour être chercheur aujourd'hui, il faut beaucoup publier, il faut montrer patte blanche à ce niveau-là. Et faire un film, ça m'a demandé 2 ans et demi. Et donc, je n'ai pas publié pendant ce temps-là, donc je suis hors marché du chercheur. Mais par contre, ce que ça m'a apporté, c'est quelque chose de vraiment chouette, parce que j'ai beaucoup montré le film lors de colloques, de séminaires, d'événements scientifiques. Et j'ai été approchée par une agronome qui s'appelle Juliette Marielle, qui est au CIRAD, et qui voulait collaborer avec une cinéaste. Et on est en train de bâtir un projet de film à Madagascar où on s'intéresse en fait aux relations des paysans et paysannes à leur environnement. Et on va spécifiquement s'intéresser au moment de l'attente de la pluie. Et donc on va partir au mois d'octobre à Madagascar, dans la région semi-aride de Soazou, au sud-ouest, pour attendre la pluie avec les gens et faire un journal filmé où on va essayer, par le journal, par la réitération de qu'est-ce qui se passe, est-ce que la pluie arrive, est-ce qu'il y a telle plante qui du coup l'annonce, est-ce qu'il y a telle espèce d'oiseau qui l'annonce. Il paraît que le grand koukal vient chanter lorsque les pluies vont revenir. Et par ce journal de bord, dans le petit village d'Ankaraï, essayer de capter ces savoirs locaux de l'environnement dans une zone où il n'y a pas d'irrigation et donc où l'observation, la connaissance du vivant est certainement très, très importante. Voilà. Donc c'est un tout autre travail. Je n'ai jamais travaillé à l'étranger. C'est un peu une prise de risque, mais ça va être passionnant, je suis sûre.
Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut voir Méandre ou la rivière inventée dans les mois qui arrivent?
On est très heureux parce que ce film est très apprécié et donc en fait il fonctionne énormément bouche à oreille. Donc on est contacté je pense 4 ou 5 fois par semaine pour le projeter partout en France et même à l'étranger. Donc on est très heureux. Et en parallèle, PY Production, donc la production, on met sur les plateformes de diffusion plus classiques de cinéma, mais aussi du coup on l'accompagne aussi auprès de collectivités, où il est montré dans des syndicats de rivières, comme je disais tout à l'heure, ou aussi auprès de mairies ou de parcs. Donc on est très heureux parce qu'il a vraiment cette vie multiple. Et alors il a notamment été montré au Cinémed, au Festival de Lussas, le stage généraux du documentaire à Lussas. Et là, bientôt, il va être projeté le 4 mai au Quai Branly, à Paris, au Festival Jean Rouche. Donc on est très très contents. Il va être aussi montré, là il va partir en Tunisie, à Prague. Et alors à Montpellier, je sais qu'il va être montré, mais plutôt en septembre. Il faut aller voir sur PY Production si ça vous intéresse ou me contacter directement. Et souvent je donne les informations sans problème. N'hésitez pas.
Merci beaucoup Marie.
Je t'en prie Anaïs, j'espère que c'est le début des beaux jours et que vous irez au bord de l'eau pour passer un bon moment et pour vous connecter avec la rivière.
Pour la musique aujourd'hui, vous avez entendu des extraits de la bande originale du documentaire Méandre ou la rivière inventée, musique qui, comme le film, est composée, créée par Émilien de Bortoli et Marie Lusson, tout comme d'ailleurs les autres morceaux que vous avez entendus dans l'émission. Certains sont de leur duo Io, trouvés dans un album appelé « Prière pour les hasards d'un autre monde ». Et un autre qui nous vient de l'Orchestre National du Cholao. Si vous voulez voir le film, vous pouvez vous adresser à l'équipe de Pi Productions. Pi, ça s'écrit P-Y. Vous pourrez trouver aisément leur contact sur Internet. Ils vous communiqueront les prochaines dates de projection et d'intervention des créateurs du film. J'en profite d'ailleurs pour remercier Pi Productions, mais également le Festival CHAP et évidemment Émilien de Bortoli et Marie Lusson pour leur participation à Ethno Vibro. Vous pourrez réécouter cette émission sur les ondes de Radio Escapade vendredi prochain à 15h30 ou à votre guise, bien sûr, sur Internet, à la rubrique podcast de la radio ou bien sur mon audioblog Ethno Vibro hébergé par Arte Radio. Je vous donne rendez-vous en mai, toujours le quatrième mercredi du mois à 9h30 sur les ondes. D'ici là, je vous souhaite de belles vibrettes à vous tous.